Chapitre 5. Philosophie du superficiel. J'ai vécu en philosophe. Dernière parole de Casanova. À la vérité, à une si large amplitude de vie, correspond presque toujours une faible profondeur morale. Pour pouvoir danser sur toutes les eaux, preste et agile comme Casanova, il faut être avant tout léger comme un bouchon, et ainsi avoir exactement les choses, le propre de son art de vivre si admiré, n'est pas dans une vertu ou une force positive particulière, mais bien surtout dans quelque chose de négatif, dans l'absence complète de toute entrave éthique. Si l'on fait l'autopsie psychologique de ce morceau d'humanité plein de suc, gonflé de sang et débordant de passion, on constate d'abord l'inexistence complète de tout organe moral. Cœur, poumon, foie, sang, cerveau, muscles et, bien entendu, cordons séminaux, tout cela est développé chez Casanova de la manière la plus forte et la plus normale. C'est seulement au point de vue psychique, où d'habitude les qualités et convictions morales se condensent dans cette formation mystérieuse qu'est le caractère, qu'on est surpris de trouver chez Casanova un vide complet, un espace sans air, l'inexistant, le néant. Avec tous les acides et toutes les lessives, les lancettes et les microscopes, on ne peut même pas déceler, dans cet organisme par ailleurs absolument sain, un rudiment de la substance appelée conscience, de cette chose spirituelle supérieure au moi qui contrôle et règle le monde des sens. Même sous une forme simplement esquissée, le système moral fait complètement défaut dans cette chair ferme et sensuelle. Par là s'explique tout le secret de la légèreté et du génie de Casanova. Il n'a, l'heureux homme, que de la sensualité, et pas d'âme. N'étant attaché à personne ni à rien, ne visant aucun objectif et ne se laissant entraver par aucun scrupule, il peut suivre une autre cadence que tous les hommes qui marchent vers un but sur qui pèse la morale, qui sont attachés à une dignité sociale et chargés de scrupules moraux. De là son élan unique, son incomparable élasticité. Pour ce navigateur de l'univers, il n'y a pas de terre ferme. Il ne se fixe sur aucun sol. Il n'obéit à la loi d'aucun pays, uniquement boucanier et flibustier de ses passions. En cette qualité, il ne respecte ni les conventions de la société, ni les contrats sociaux, ni les lois conventionnelles de la moralité européenne. Tout ce qui paraît sacré ou simplement important aux autres hommes ne vaut pas un écu à ses yeux. Essayez de lui expliquer ce que sont les liens moraux ou l'ordre temporel. Il les comprendra aussi peu qu'un nègre la métaphysique. L'amour de la patrie, lui, le cosmopolite, qui 73 ans durant ne possède pas un lit à lui et qui habite toujours n'importe où, il se moque du patriotisme. Ubi bene, ubi patria. Là où il remplit le mieux ses poches et où il trouve les femmes au lit avec le plus de facilité, là où il mène le plus aisément les fous par le bout du nez et où il jouit avec le plus de saveur de la vie. Là, il écarte bien les jambes sous la table et se sent chez lui. Le respect de la religion, il adopterait n'importe laquelle, il se ferait circoncire ou se laisserait pousser une natte comme les Chinois, si cette profession de foi lui rapportait le moindre avantage, et en lui-même, il s'en moquerait pas moins que du catholicisme qui est sa religion. En effet, que sert une religion à celui qui ne croit pas à l'au-delà, qui ne croit qu'à la chaude et bouillante vie de ce monde? Il est probable que derrière il n'y a rien, ou du moins on apprendra ce qu'il y a en temps voulu, argumente-t-il de la manière la plus nonchalante et indifférente. Donc, foin de toute l'étoile d'araignée de la métaphysique. Carpe diem, jouis de la journée, profite de chaque moment, pressure-le comme une grappe de raisin et jette le marc au pourceau. Telle est son unique maxime. S'en tenir strictement au monde des sens, à ce qui est visible et accessible. Faire rendre, avec des poussettes, le maximum de douceur et de volupté que peut donner chaque minute. Telle est la philosophie de Casanova, et elle ne va pas un centimètre plus loin. C'est pourquoi il peut rejeter derrière lui, en riant, tous les boulets de plomb de la morale bourgeoise, tels que l'honneur, la décence, le devoir, la pudeur et la fidélité, qui empêchent de se déployer en liberté dans l'immédiat. En effet, l'honneur, qu'en ferait Casanova? Il ne l'apprécie guère autrement que l'obèse Falstaff, qui constate cette vérité incontestable qu'il n'est bon ni à manger ni à boire. ou que ce brave parlementaire anglais qui un jour déclara en pleine séance qu'il entendait toujours parler de la gloire future et qu'il voudrait bien enfin savoir ce que la postérité avait déjà fait pour le bien-être et le confort de l'Angleterre. L'honneur n'est pas matière à jouissance, on ne peut le saisir, mais il gêne la jouissance par les devoirs et les obligations qu'il impose. Par conséquent, il se montre superflu. Car Casanova ne hait sur la terre rien tant que les devoirs et les obligations. Il ne connaît et ne veut reconnaître aucun autre devoir que ceux qui sont naturels et commodes et qui consistent à prodiguer des plaisirs à son brave et robuste corps et à donner aux femmes autant que possible de l'élixir de joie. C'est pourquoi il ne se demande pas du tout si son ardente existence est pour les autres bonne ou mauvaise, douce ou amère, ni s'il trouve sa conduite sans honneur et sans pudeur. La pudeur, quel mot étrange, quel concept incompréhensible! Ce vocable manque dans le lexique de sa vie. Avec le sans-gêne d'un lazzarone, il abaisse bravement ses culottes devant le public. Il montre en riant à gorge déployée ses sexualia. Il raconte bonnement à pleine bouche ce qu'un autre n'avouerait pas, même si on le mettait à la torture, c'est-à-dire ses filouteries, ses ratés, ses ridicules, ses maladies sexuelles et ses cures de syphilis. Toutefois, il n'use pas de ce ton retentissant de trompette de la vérité qui est celui de Jean-Jacques Rousseau et qui fait par avance l'étonnement indigné de ses auditeurs. Il agit avec un naturel et une naïveté parfaits parce que, ainsi que notre description anatomique l'a déjà établi, il est dépourvu de tout nerf sensible aux différences éthiques et de tout organe capable de juger des complexes moraux. Si on lui reprochait d'avoir triché aux cartes, il répondrait d'un air de surprise « Oui, c'est alors que je n'avais pas d'argent ». Si on l'accusait d'avoir séduit une femme, il se bornerait à dire en riant « Je l'ai pourtant bien servi ». Jamais il n'a la moindre intention de s'excuser d'avoir subtilisé de la manière la plus éhontée les économies des poches d'honnêtes bourgeois et de compagnons crédules. Au contraire, il appuie dans ses mémoires ses escroqueries de la façon la plus raffinée par ce cynique argument, c'est venger la raison que de tromper un imbécile. Il ne se défend pas, il ne regrette jamais rien, et le mercredi des cendres, au lieu de déplorer sa vie gaspillée, qui se termine par une banqueroute complète, dans la pauvreté et la dépendance les plus misérables, le vieux renard édenté écrit ces lignes d'une charmante impertinence « Je me tiendrais pour coupable si aujourd'hui j'étais riche. Mais je n'ai rien, j'ai tout dépensé, et cela me console et me justifie. » Il n'a rien mis de côté pour le ciel, il n'a rien sacrifié de ses passions par égard pour la morale et les hommes, il n'a épargné ni pour lui ni pour les autres, et dans une carrière de 70 ans, il n'a rien conservé sauf des souvenirs. Et même ce bon dissipateur nous a fait, par bonheur, présent de ses souvenirs. C'est pourquoi nous devrions être les derniers à nous indigner de sa facilité à dépenser. Toute la philosophie de Casanova tiendrait donc à l'aise dans une coquille de noix. Elle commence et finit par ce précepte, vivre rien que pour ce monde, sans souci et spontanément, ne pas se laisser berner par la perspective d'un ciel qui, à la rigueur, est possible, mais qui, somme toute, est incertain au plus haut point, ou par celle de la gloire posthume. Ne point permettre à des théories de troubler la vision de l'immédiat, agir non pas suivant la téléologie ou une fin préalable, mais uniquement suivant son penchant et en vue du moment même. Par conséquent, ne pas se laisser arrêter beaucoup par des spéculations ou des considérations. Un Dieu singulier a mis devant nous cette table de jeu qu'est le monde. Si nous voulons nous y amuser, il nous faut accepter les règles du jeu telles qu'elles sont, sans se demander si elles sont justes ou fausses. Et de fait, Casanova n'a jamais perdu une seconde à réfléchir sur le problème de la possibilité ou du devoir qu'aurait ce monde d'être réellement tout autre qu'il est. Aimez l'humanité, mais aimez-la comme elle est, dit-il dans son entretien avec Voltaire. Ne pas se mêler des affaires, qui nous sont étrangères, du Créateur de l'univers, lequel a la complète responsabilité de cette chose bizarre. Ne pas remuer le levain et se salir les mains, mais tout simplement sortir d'un doigt preste les raisins de la pâte. Celui qui pense trop aux autres s'oublie lui-même. Celui qui considère avec trop de sévérité la marche du monde voit ses propres jambes se paralyser. si les imbéciles sont exploités, Casanova trouve que c'est tout à fait dans l'ordre. Quant aux gens intelligents, Dieu, à vrai dire, ne les aide pas, mais il ne tient qu'à eux de se défendre. Puisque le monde est si mal organisé, que les uns vont en carrosse avec des bas de soie, tandis que les autres sentent leur estomac crier sous les haillons, il ne peut y avoir pour l'homme qui raisonne qu'un seul problème, monter dans le carrosse, car on ne vit que pour soi, non pas pour les autres. Certes, c'est là beaucoup d'égoïsme, mais une philosophie de la jouissance est-elle concevable sans égoïsme ? Un épicurisme l'est-il sans une entière indifférence aux choses sociales ? Celui qui veut vivre avec passion pour lui-même doit logiquement être indifférent au destin de tous les autres hommes. Indifférent à tous les autres, indifférent aux grands problèmes et destins que chaque jour pose à l'humanité. C'est ainsi que vit Casanova pendant ses 73 ans. Rien ne l'intéresse que sa propre jouissance. Et lorsque, d'un œil clair, il regarde avec curiosité à droite et à gauche, ce n'est que pour s'amuser et pour ne manquer aucun avantage. Jamais il ne montrera d'indignation, ni comme Job, il ne posera à la divinité des questions déplacées sur le pourquoi et le comment. Il prend chaque fait, énorme économie de sentiments, simplement comme fait, sans y coller l'étiquette « bon » ou « mauvais ». Que Laure O'Morphy, petite ordure irlandaise, âgée de 15 ans, aujourd'hui encore couchée dans un lit pouilleux et prête à vendre avec la plus grande joie sa virginité pour deux pauvres florins, ait 15 jours plus tard un palais au parc aux cerfs en qualité de maîtresse du roi très chrétien, et qu'elle soit alors couverte de bijoux en attendant de devenir bientôt l'épouse d'un baron complaisant, que lui-même, hier encore misérable joueur de violon dans un faubourg de Venise, deviennent du jour au lendemain beau-fils d'un patricien et jeune gentilhomme portant des diamants au doigt, ces choses-là ne sont pour lui que des curiosités, sans qu'il s'en émeuve aucunement. Mon Dieu, le monde est ainsi fait, injuste et illogique, et parce qu'il sera éternellement tel, il n'y a pas lieu de construire une loi de la gravitation ou un mécanisme compliqué pour expliquer cette sorte de montagne russe. Seuls les sots et les gens stupides cherchent à découvrir à la roulette un système, et par là ils se gâtent l'intérêt du jeu, tandis que le véritable joueur, même dans le jeu de l'univers, éprouve justement l'imprévu comme un stimulant incomparable et continuel. Qu'avec bec et ongles, on en tire ce qu'on peut trouver de mieux, voilà toute la sagesse. Il faut être philosophe uniquement pour soi-même, non pas pour l'humanité. Et cela signifie pour Casanova être fort, avide, sans scrupules et, sans se soucier de l'heure suivante, saisir avec rapidité dans le jeu des vagues la seconde qui passe et l'épuiser jusqu'au bout. Car tout ce qu'il y a derrière le moment paraît absolument incertain à ce fieffé païen. Jamais dans ses plaisirs il ne se laisse ajourner à la prochaine fois, car il ne saurait imaginer un autre monde que celui que l'on peut saisir et pénétrer avec tous ses organes. La vie, heureuse ou malheureuse, est le seul bien que l'homme possède, et qui n'aime pas la vie n'est pas digne d'elle. Seul ce qui respire, ce qui répond au plaisir part du plaisir, ce qui se presse contre la peau brûlante avec une ardente passion et des caresses aussi ardentes, seul cela paraît à ce farouche anti-métaphysicien véritablement réel et intéressant. Ainsi, la curiosité de Casanova pour l'univers se réduit à l'organique, à l'homme. Durant sa vie, il n'a peut-être jamais levé un regard méditatif vers la voûte étoilée, et la nature, elle aussi, lui reste tout à fait indifférente. Jamais ce cœur si prompt ne peut être ému par sa sérénité et son grandiose. On n'a qu'à feuilleter les 16 volumes de ses mémoires, voici un homme aux yeux perçants et aux sens aigus qui voyage à travers les plus beaux paysages de l'Europe, du Posilip à Tolède, du lac de Genève aux steppes russes, mais en vain chercherait-on une seule ligne d'admiration pour la beauté de ces 1000 paysages. Une petite servante crasseuse dans une taverne à soldats a pour lui plus d'importance que toutes les œuvres d'art de Michel-Ange, et une partie de cartes dans une auberge sans air lui paraît quelque chose de plus beau qu'un coucher de soleil sur le rivage de Sorrent. La nature et l'architecture, Casanova ne les remarque pas du tout, parce que l'organe qui nous lie au cosmos, parce que l'âme lui manque complètement. Les champs et les prairies qui brillent à l'aurore parsemées de rosées inondées des rayons du soleil matinal, aux couleurs irisées, ne sont que des surfaces quelconques de verdure, où de sots animaux, les paysans, suent et s'échinent pour que les princes aient de l'or dans leurs poches. Les bosquets artificiels et les sombres allées ne l'intéressent tout au plus que comme une bonne cachette, pour s'amuser avec une femme. Les fleurs n'ont de valeur que parce que, à l'occasion, elles peuvent servir de présent, et parfois aussi d'emblème. Cet homme reste complètement fermé à la beauté sans objet et sans dessein de la nature. Pour lui, le monde ne comprend que les villes, avec leurs arcades et leurs promenades, où le soir roulent des carrosses, ces nids branlants et obscurs qui cachent de belles femmes, les villes où les cafés attendent avec complaisance qu'on vienne y tailler un pharaon, aux dépens des badauds, où l'on est attiré par les opéras et les maisons closes, dans lesquelles on va prestement chercher pour sa nuit une chair nouvelle, où les hôtelleries ont des cuisiniers qui composent des poèmes avec des sauces et des ragoûts et de la musique avec des vins rouges et blancs. Seules les villes existent dans le monde pour ce jouisseur, parce que ce n'est qu'en elles que le hasard peut se déployer dans la multiplicité magnifique et fantastique de ses surprises. Parce que l'imprévu y trouve les moyens d'y exécuter les variations les plus brillantes et les plus ravissantes. Casanova n'aime que les villes, à cause de la chaleur humaine qui s'y presse. C'est là que les femmes habitent dans la forme qui, pour lui, est la seule possible, à l'état de multitude, en une pluralité changeante. Et au sein des villes, ce qu'il aime le plus, c'est l'atmosphère de la cour, le luxe, parce que la volupté s'y sublime en art, car bien qu'il soit sensuel comme pas un, le gaillard à la large poitrine qu'est Casanova n'est nullement un homme au sens grossier. Un air chanté avec art peut l'enthousiasmer, un poème peut faire son bonheur, une conversation spirituelle donne au vin toute sa chaleur. S'entretenir d'un livre avec des hommes intelligents, écouter la musique dans l'obscurité des loges, pencher en adorateur vers une femme, tout cela accroît pour lui magiquement les charmes de l'existence. Mais ne nous illusionnons pas, cet amour de l'art, chez Casanova, ne dépasse jamais le jeu, la joie agréable du dilettante. L'esprit doit, pour lui, servir la vie, et jamais la vie, l'esprit. Ainsi, il apprécie et considère l'art uniquement comme le plus fin et le plus subtil des aphrodisiaques, comme le moyen flatteur d'exciter les sens, de favoriser la volupté, de préluder discrètement à la passion en procurant un plaisir raffiné qui précède la jouissance grossière de la chair. Il aimera faire une petite poésie pour la donner, avec une jarretière, à une dame qu'il désire. Il récitera de l'Arioste pour l'enflammer. Il s'entretiendra d'une façon très spirituelle de Voltaire et de Montesquieu avec des gens du monde pour faire valoir son cerveau et masquer adroitement un coup de main contre leur bourse. Mais jamais ce sensualiste méridional ne comprend l'art ou la science dès qu'ils exigent de la peine et de la persévérance, dès qu'ils veulent devenir une fin en soi, expliquant le sens du monde. Par instinct, ce joueur repousse la profondeur, parce qu'il ne veut que la surface, l'écume et le parfum de l'existence, le déferlement foudroyant du hasard. Éternel jouisseur, éternel dilettante, et par là d'une insouciance si légère, si peu sérieux et toujours en mouvement. De même que la fortune de maître Dürer ne fait que courir les pieds nus sur le globe roulant de la terre, porté par l'élan et le vent du hasard, sans s'arrêter ni se reposer nulle part, infidèle à tous. De même, Casanova court librement dans la vie, sans se lier jamais, vivant dans la minute et pour les rapides changements. La variété est pour lui le sel du plaisir, et le plaisir à son tour est le seul sens que le monde ait à ses yeux. Ainsi, léger comme un éphémère, vide comme une bulle de savon, et empruntant son éclat au contre-jour des événements, il papillonne à travers le temps. C'est à peine si l'on peut une fois la saisir et la tenir, cette forme toujours changeante, et l'on peut encore moins dégager l'essence de son caractère. Qu'est Casanova à proprement parler? Bon ou mauvais? Sincère ou menteur? Héros ou fripon? Eh bien, il est tout cela, suivant les heures. Les circonstances déteignent sur lui et il se transforme avec les transformations au milieu desquelles il vit. S'il est en fond, il n'y a pas de gentilhomme plus distingué que lui, avec un brio charmant, une grandeza rayonnante, aimable comme un haut prélat et dissolu comme un page, il jette à pleine main l'argent autour de lui. L'épargne ne fut jamais mon affaire, dit-il. Il invite à sa table, avec prodigalité, comme un amphitryon de grande naissance, l'homme le plus inconnu de lui, lui donne des tabatières et des rouleaux de ducats, lui fait crédit et fait jaillir autour de lui un feu d'artifice d'esprit. Mais si les poches de soie de sa ringrave sont vides, si dans son portefeuille il entend le froissement de traites impayées, gare à quiconque voudrait faire paroli aux cartes avec le galant Tourneau. Il vous fera sauter la coupe plusieurs fois de suite, vous refilera de faux billets de banque, vendra son amante et commettra la plus grossière des vilenies. Aussi changeant que les cartes elles-mêmes, il sera aujourd'hui en société, charmant, spirituel, enchanteur, et demain un vulgaire chenapan. Lundi, il brûlera pour une femme avec la délicatesse d'Abélard, et mardi, il la jettera, misérable ruffian, pour 10 livres sterling, dans le lit d'un lord quelconque. Non, son caractère n'est ni bon ni mauvais. Il n'a pas de caractère. Le caractère et la substance morale sont pour lui des attributs aussi étrangers que des nageoires à un mammifère. Ils sont choses inconnues à son espèce. Il n'agit ni moralement, ni immoralement, mais avec une amoralité toute naturelle. Ses résolutions viennent spontanément de ses articulations, ses réflexes, de ses nerfs et de ses veines, ininfluencés par la raison, la logique et la moralité. Sent-il quelque part une femme? Voici que déjà son sang bat follement. Il s'élance en aveugle, entraîné par son tempérament. Voit-il une table de jeu? Sa main tremble dans sa poche. Sans qu'il le sache ou le veuille, son argent sonne déjà sur la table. Mettez-le en colère, et ses veines se gonflent comme si elles allaient éclater. Une salive amère lui vient à la bouche. Le rouge de ses yeux saille, son poing se crispe, et il frappe avec une rage aveugle. Il fonce dans la direction de sa colère, commet une bouée, comme un taureau furieux, suivant l'expression de son compatriote et frère Benvenuto Cellini. On ne peut rendre en aucun cas Casanova responsable de ses actes, car c'est le sang qui agit en lui, et il est impuissant contre les crises élémentaires de son ardeur. Je n'ai jamais été en état de me surmonter, et je ne le serai jamais. Il ne réfléchit ni ne combine. Ce n'est que dans la détresse que lui viennent pour le sauver des inspirations astucieuses et souvent géniales. Jamais il ne prépare par des plans ou des calculs, il n'a pas assez de patience, ne fût-ce que la plus petite action. 100 fois, on peut rencontrer dans ses mémoires la confirmation du fait que tous ces actes importants, les coups les plus sots, comme les escroqueries les mieux réussies, viennent de la même ligne de tir d'une humeur qui fait soudain explosion et jamais d'un calcul de l'esprit. Brusquement, il jette un jour, aux orties, son froc ecclésiastique. D'un coup d'éperon, il passe soudain, étant soldat, à l'armée ennemie pour se constituer prisonnier. Il va en Russie ou en Espagne, simplement droit devant lui, sans avoir d'emploi ni de recommandations, ni de renseignements sur ses pays, sans même s'être demandé pourquoi ni comment. Toutes ces décisions sont comme des coups de pistolet qui partent involontairement de ses nerfs, de son caprice, d'un ennui trop intense. Elles le précipitent d'une situation dans une autre, d'une manière si imprévue que souvent lui-même s'en effraie et se frotte les yeux. Et il est probable qu'il ne doit la plénitude de sa vie qu'à cette courageuse absence de tout plan. Car ce n'est pas à Morello Gico, en s'informant honnêtement et en calculant, qu'on se lance dans l'aventure. Et ce n'est pas en ayant un système stratégique qu'on devient un maître aussi fantastique de la vie. Rien de plus erroné, donc, que la peine singulière que se sont donnée tous les auteurs dès qu'ils ont pris cet homme ardent et instinctif comme héros d'une comédie ou d'un récit, pour doter Casanova d'une âme claire, d'un caractère pensif, ou même de quelque chose qui rappelle Faust ou Méphistophélès, alors que son ressort et son élasticité résultent uniquement de ce qu'il ne réfléchit jamais, tout entier à son amorale insouciance. Mettez-lui 3 gouttes de sentimentalité dans le sang, chargez-le de conscience et de responsabilité, il n'est plus Casanova. Donnez-lui le costume d'un personnage intéressant par son côté sombre, placez en lui une substruction de scrupules, et le voici dans la peau d'un autre. Car ce mondain dissolu, cet éternel enfant sans souci, qui veut saisir effrontément tous les jouets, tous les divertissements, toutes les femmes, les plaisirs et les bourses où est l'argent d'autrui, et tout plutôt que démoniaque, Le seul démon qui agite Casanova a un nom très bourgeois et un visage épais et spongieux. Il s'appelle simplement l'ennui, parce qu'il est vide, sans substance d'âme, néant absolu. Il lui faut, pour ne pas succomber à la consomption interne, se remplir infatigablement et sans cesse d'événements extérieurs. Il a besoin de l'oxygène de l'aventure pour ne pas mourir de faim. De là ce désir ardent et convulsif de ce qu'il n'a pas encore eu, de ce qui est nouveau pour lui. De là cette avide curiosité, sans cesse à flairer et à regarder d'un œil brûlant qui caractérise l'homme toujours affamé d'événements. Étant improductif intérieurement, il lui faut sans répit s'emparer d'une matière qui lui permette d'alimenter sa vie. Mais cette façon continuelle de vouloir tout avoir est bien éloignée du démoniaque, de l'homme de proie véritable, d'un Napoléon qui désire pays après pays, royaume après royaume, par soif d'infini, ou bien d'un Don Juan qui se sent porté à séduire toutes les femmes pour être le seul souverain du monde de la femme, cet autre infini. Le simple jouisseur qu'est Casanova ne cherche jamais des superlatifs aussi élevés, mais rien que la continuité du plaisir. Il n'est pas poussé, comme l'homme d'action ou le fils de l'esprit, par une fanatique illusion vers les tensions dangereuses du sentiment. Il ne veut que la bonne chaleur de la jouissance, la joie étincelante du jeu, l'aventure. L'aventure toujours nouvelle et toujours différente, pour occuper son moi et accroître l'intensité de sa vie. Surtout ne pas être seul, ne pas frissonner solitaire dans ce vide glacial, surtout pas de solitude. Observons donc Casanova lorsque lui manque le jouet divertissant. La tranquillité devient alors pour lui aussitôt la plus terrible des agitations. Il arrive le soir dans une ville étrangère, il ne peut rester une heure dans sa chambre, seul avec lui-même ou avec un livre. Aussitôt, il renifle de tous les côtés pour voir si le vent du hasard ne lui apportera pas quelque amusement. Si peut-être la servante ne pourrait pas lui servir de bouillotte pour la nuit. Il se mettra à causer en bas, dans la salle commune, avec des hôtes quelconques. Il fera paroli dans n'importe quelle taverne, avec des joueurs suspects. Il passera la nuit avec la plus misérable des prostituées. Partout, son vide intérieur le pousse irrésistiblement vers les vivants, vers les humains, car seul le frottement avec autrui enflamme sa vitalité. Seul avec lui-même, il est sans nul doute un des êtres les plus tristes et les plus ennuyeux qu'il y ait. On le remarque à ses écrits, à l'exception des mémoires, et on le sait par les années solitaires de Dux, où il appelait l'ennui cet enfer que Dante a oublié de décrire. De même que la toupie, pour conserver sa rotation et sa danse magique, doit être sans cesse fouettée, sinon elle roule misérablement sur le sol, de même Casanova a besoin pour son élan de l'impulsion éperonnante du dehors. Il est, comme une infinité d'autres, aventurier par manque de force interne de production. C'est pourquoi toujours, à peine la tension naturelle de la vie s'arrête-t-elle en lui, il a recours à cette tension artificielle qu'est le jeu. Car le jeu reproduit, avec un génial raccourci, la tension de la vie. Il crée artificiellement le péril et l'abrégé du destin. Il est par là l'asile de tous ceux qui vivent dans le moment et l'éternel divertissement de tous les oisifs. Grâce au jeu, le flux et le reflux du sentiment soulèvent une tempête dans un verre d'eau. La seconde, vide, l'heure morne, se remplit de frissons, d'anxiété et d'attente. Nulle autre chose, sauf peut-être la femme, ne vient délivrer l'homme fatigué de lui-même en le lançant dans une aventure fictive et en devenant ainsi l'occupation indispensable de celui qui est intérieurement inoccupé. Casanova est comme nul autre l'esclave du jeu. De même qu'il ne peut pas voir une femme sans la désirer, de même il ne peut voir de l'argent rouler sur une table de jeu sans que ses doigts sortent de sa poche en frémissant. Et même quand il reconnaît dans le banquier un filou notoire, un confrère en tricherie, il risque, bien qu'il le sache perdu, son dernier ducat. Car il n'est pas douteux, bien que les mémoires glissent avec subtilité sur le fait que depuis les archives de la police ont abondamment rendu public que Casanova fut un des tricheurs et truqueurs de cartes les plus habiles de son temps, et sans compter toutes sortes de tromperies et d'entremises galantes lucratives, il a vécu bien souvent de cet art charmant. Mais rien ne montre mieux sa passion du jeu, sa rage démesurée et sans frein de se confier au hasard que le fait de se laisser toujours et sans cesse dépouiller, lui qui dépouille les autres, parce qu'il ne sait pas résister au jeu même quand la chance lui est le moins favorable. De même qu'une prostituée apporte à son souteneur le gain de l'amour péniblement simulé, rien que pour éprouver dans sa réalité ce dont elle ne donne à ses amis de passage que l'illusion, de même Casanova sacrifie à ses madrés partenaires tout ce qu'il vole aux novices, effrontément et sans pudeur. Ce n'est pas une fois, mais 20 fois, 100 fois, qu'il perd le butin d'une laborieuse escroquerie en le risquant sur la chance des cartes toujours affrontées par lui. Mais ce qui fait de lui véritablement et essentiellement un joueur, c'est qu'il joue non pas pour gagner, comme ce serait monotone, mais pour jouer. De même qu'il vit non pour devenir riche, heureux dans le confortable et la chaleur d'une position bourgeoise, mais pour vivre, joueur ici dans l'élément premier de l'existence. Jamais il ne cherche la détente définitive, mais bien la tension constante, l'éternelle aventure dans le raccourci du noir et du rouge, du carreau et de l'as, les frémissements du coup gagné ou perdu qui lui sont nécessaires pour sentir ses nerfs et le bouillonnement de sa passion. Comme la systole et la diastole, comme l'expiration et l'inspiration de la substance brûlante de l'univers, il a besoin de ce contraste éclatant entre les gains et les pertes devant une table de jeu. Il a besoin de conquérir et de repousser les femmes. Il a besoin de cette alternative de pauvreté et de richesse. Il lui faut l'aventure prolongée à l'infini. Et comme même une vie d'une variété si cinématographique a des intervalles de calme entre les coups de théâtre, les surprises et les orages, il remplit ses espaces libres avec la tension artificielle du fatum des cartes. Et ce n'est que grâce aux furieux défis jetés par lui au hasard qu'il atteint ces courbes soudaines qui le font passer de haut en bas, ces déchirures ébranlant les nerfs, les chutes avec fracas dans le néant. Aujourd'hui, les poches pleines d'or, grand seigneur, deux laquais derrière son carrosse. Demain, il vendra ses bijoux à un juif et ses culottes. Ce n'est pas une plaisanterie. On a trouvé à Zurich un reçu de ce genre. Seront mises en gage au Mont-de-Piété. Mais c'est ainsi et non autrement que cet aventurier fieffé veut sa vie, largement secouée par ces explosions subites de bonheur et de désespoir. C'est pour cela qu'il jette sans cesse au destin comme dernier et unique enjeu, tout son être véhément. 10 fois il est en duel à un pouce de la mort, des douzaines de fois il frôle les travaux forcés et les galères. Des millions passent dans ses poches sans y rester, et il ne bougerait pas la main pour en retenir quelques bribes. Mais c'est justement parce qu'il se donne toujours et toujours tout entier à tous les jeux, à toutes les femmes, à tous les moments et à toutes les aventures qu'il gagne finalement. Lui qui meurt comme un misérable mendiant dépendant entièrement d'autrui, le bien suprême, la plénitude infinie de la vie.